On pourrait dire en introduction que la question de la politisation des campagnes françaises au XIXe siècle, c'est quand même une problématique qui ressurgit régulièrement, et qui ressurgit d'autant plus régulièrement que ça correspond à une question des concours d'enseignement, à la question de contemporaine du CAPES et de la grecque 2014-2016. Et dans cette réintroduction périodique, il y a beaucoup de nostalgie, hein, beaucoup d'images d'Épinal. Hein, c'était mieux avant. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment des masses rurales, souvent plus monarchistes que républicaines, surtout peu alphabétisées au XIXe siècle, ont-elles pu finir par plébisciter la République entre, on va dire, 1877 et 1889, hein, pour se l'approprier symboliquement au 14 juillet 1889, c'est pour ça que je m'arrête là, hein, c'est-à-dire au centenaire de la Révolution française. Donc, comme les classiques explications ne suffisent pas toujours, les explications conjoncturelles, je pense qu'il faut chercher un petit peu plus en profondeur pour comprendre la mutation civique des campagnes qui entrent progressivement en politique, et qui font évoluer les sociabilités avec de l'associationnisme qui se généralise dans la société et des résistances culturelles importantes. Tout ça pour vous dire qu'il y a toujours eu au XIXe siècle, et même avant bien sûr, un débat vivant, une sociabilité politique stimulante dans le monde rural, surtout après la Restauration, une sorte de sociabilité embryonnaire qui évidemment ne peut s'exprimer que rarement au grand jour, surtout sous les régimes autoritaires. Donc cette sociabilité politique va s'exprimer par des moyens détournés, hein, qui sont les fêtes publiques, hein, les commémorations publiques, qui font un peu la synthèse, hein, de cette intervention au carrefour de l'émission de politique symbolique et de la réception des politiques symboliques. Surtout dans un pays qui, comme la France, depuis 1789, assigne une mission civique et didactique aux fêtes publiques. Et encore aujourd'hui, je vous citerai le titre premier de la Constitution de 1791, hein, qui dit « Des fêtes publiques entretiendront la fraternité entre les citoyens et les attacheront aux lois ». C'est à ça que ça doit servir, les fêtes publiques en France. Donc vous voyez que la fête publique va être au croisement des impulsions nationales et des réceptions populaires. Cette fête publique, elle est faite de rituels, d'échanges entre groupes, entre individus, et un pouvoir qui considère, je cite Alain Corbin, hein, que les fêtes sont, depuis toujours, un instrument de légitimation politique. Donc c'est par la commémoration, c'est par la fête publique que les innovations politiques vont pénétrer petit à petit dans les campagnes au XIXe siècle, avant que les populations ne s'emparent de ces commémorations publiques, hein, et créent leur propre sociabilité festive, qui est une sorte de proto politisation, comme d'autres rituels, comme le vote par exemple, au XIXe siècle. Et on s'aperçoit que très rapidement, les populations vont contester, d'un point de vue idéologique, d'un point de vue politique, les émissions de politique représentées par les fêtes publiques. Donc la fête publique devient un espace de contestation politique et donc nourrit le débat politique, donc va bien politiser ces fameuses couches nouvelles, hein, dont parlait Léon Gambetta. Donc on va parler de la fête, d'abord en tant que moyen d'acculturation, si je puis dire, des campagnes. Et je vais juste faire un petit rappel, hein, avant la monarchie de Juillet, hein, on va vraiment commencer en 1830, un petit mot sur la Restauration. La Restauration, c'est un moment qui marque évidemment la fin de l'épisode révolutionnaire long, hein, qu'on fait aller jusqu'en 1814-1815. Vous savez que les historiens, maintenant, la font aller beaucoup plus loin, le moment révolutionnaire. Il faut aller jusqu'en 1914, voire même plus loin. Donc la Restauration marque un moment de fin et en même temps symboliquement une tentative de dessaisissement de la parole rurale par les nouvelles élites nobiliaires et cléricales. Terreur blanche, crise économique, épuisement des ruraux après les guerres révolutionnaires, les guerres impériales. On a l'impression que les populations n'ont pas tellement l'occasion de reprendre la parole dans les campagnes, y compris par la fête. D'autant plus que sous la Restauration, il y a une politique d'éradication des symboles républicains et bonapartistes dans les campagnes, avec des fêtes de destruction d'emblèmes, hein, qui va se coupler avec la création de nouvelles cérémonies, notamment fêtes de Saint-Louis, fêtes de Saint-Charles à partir de 1824, hein, et surtout anniversaire, hein, des royales décollations, comme on disait à l'époque, hein, donc qui se transforme en fête d'expiation, plus qu'en fête de promotion de nouvelles valeurs positif du régime. Et à toutes ces commémorations, hein, fête du sacre de Charles X, c'est la plus connue, hein, mais aussi les inaugurations de bustes royaux, la religion la plus traditionnelle est réévoquée avec ce sentiment d'une revanche à prendre sur un passé proche. Et donc, il y a quelques cérémonies qui marchent au début pour marquer le coup, si vous me passez l'expression, hein, de l'arrivée d'un nouveau souverain, ou du retour plutôt des Bourbons. Hein. Mais rapidement, les fêtes au sens politique du terme, les fêtes publiques qui permettent cette acculturation, hein, vont s'effriter, et un petit peu partout, elles sont remplacées progressivement par les traditionnelles fêtes patronales, les fêtes folkloriques qui existaient avant la Révolution française, un petit peu comme si les ruraux, hein, rejetaient une parole politique officiels un petit peu trop réactionnaires, eux qui avaient pris l'habitude de s'exprimer différemment dans les fêtes publiques créées depuis, on va dire, 1790 à peu près. Donc voilà, pour dire qu'il y a un épisode quand même qui est important avant la monarchie de Juillet. Passons à la monarchie de Juillet, hein, qui est vraiment le fondement de cette politisation des campagnes par des politiques festives. Alors, la monarchie de Juillet, surtout les années 1830-1835, hein, donc, je cite mon maître Maurice Agulon, hein, donc des années de liberté d'expression d'une extraordinaire fécondité. Hein, donc, vous imaginez ce qu'a été la période 1830-1835. Hein. Donc, pendant cette période, ce régime très marqué par le libéralisme de ces élites urbaines, hein, le roi citoyen, d'accord, est paradoxalement celui qui va commencer à éveiller les campagnes au débat politique, alors que le libéralisme est avant tout urbain. Ce régime crée deux cérémonies nationales équivalentes, qui, vous allez le voir, sont porteuses, de politisation. Donc, l'une, l'anniversaire des journées de juillet, donc explicitement libéral, qui doit propager le corpus libéral des journées de juillet. Hein. L'autre, plus traditionnelle, la Saint-Philippe, hein, le 1er mai, la fête du roi, comme on disait à l'époque. Donc, 1er mai, qui est aussi une période propice pour les fêtes nationales et locales. Donc vous avez des fêtes en juillet et des fêtes en mai, et c'est évidemment cette Saint-Philippe qui sera quand même un petit peu plus célébrée dans les campagnes, et la fête de juillet est un peu plus célébrée dans les villes. Donc la fête des journées de juillet est surtout urbaine. Donc moi, je vous propose de m'intéresser un petit peu plus à la fête du roi, puisque c'est la fête du roi, la Saint-Philippe, qui est la plus développée dans les campagnes. Alors, c'est la fête du roi, vous allez me dire, bah, c'est la fête des fêtes du roi, on en avait avant, etc. Oui, mais c'est un roi nouveau. C'est un roi d'un type nouveau. Hein, c'est le roi citoyen, c'est le roi des Français et non pas de la France. Hein. Donc, c'est bien de nouvelles valeurs d'un nouveau régime monarchique, une monarchie constitutionnelle, qui doit être transmise par la fête, hein, et la célébration de ce nouveau principe monarchique libéral doit accoutumer les campagnes à ce qu'on pourrait appeler une pluralité des opinions, à la notion de citoyenneté, qui n'est pas extrêmement développée à l'époque. Comme le dit le ministère de l'Intérieur en 1831, à propos de la fête du roi, c'était la fête de la patrie. La patrie, vous voyez, donc là on retrouve la Révolution, et du roi des Français. Mais aussi, précise le ministre de l'Intérieur, d'une famille, donc là on retrouve l'idée de dynastie, éprise de liberté, destinée à faire le bonheur de ses concitoyens. Donc revoilà l'héritage de 1789 assumé par la monarchie de Juillet. Donc on voit bien que les principes civiques de 1789 ne sont pas absents, et donc ils vont commencer à se diffuser dans les campagnes. J'ajouterai qu'en plus, le régime crée une fête très intéressante, très originale, qui s'appelle la fête des modifications apportées à la charte. Hein, la charte révisée, hein, 19-20 septembre 1830. Et qu'est-ce qu'on fait pour cette commémoration? On affiche la charte révisée dans toutes les communes, dit le décret qui institue la fête, avec une grande solennité, et l'on organise des fêtes publiques. Donc tous les maires, y compris les ruraux, Le Vigan dans le Var, Maffliers en Seine-et-Oise, hein, organisent des cérémonies, lisent des extraits, bien sûr, de la charte, lisent pas la charte in extenso, hein, ou des résumés de la charte, hein, et souvent accompagnent cette lecture de commentaires à destination des ruraux, hein, pour diffuser en quelque sorte ces nouvelles valeurs. Hein. Ils évoquent le serment du roi, hein, donc le serment du roi qui jure de respecter les lois de la nation. Hein. Ils évoquent le rôle des représentants du peuple, de la patrie. Donc si vous ajoutez à cette cérémonie originale quelques fêtes locales autour des premières associations, hein, de l'école, de la garde nationale, on a un peu une bonne idée de l'agitation qui s'empare un petit peu des campagnes autour des fêtes, hein, même si l'élan, je vous l'ai laissé entendre, se tasse à partir de 1835. Ces fêtes sont quand même inscrites au calendrier commémoratif de toutes les communes de France. Passons maintenant à la Seconde République. La Seconde République est un régime intéressant, donc le régime d'Agulon, hein, qui va essayer de louvoyer entre peur sociale et parole républicaine. Donc, La Seconde République, celle qui m'intéresse, c'est surtout sa partie démocratique, la plus belle, entre février et avril-juin 1848. C'est un grand moment de sociabilité festive rurale, il suffit de lire Flaubert, hein, autour des fameuses plantations d'arbres de la liberté. À la ville comme à la campagne. Hein, lisez Bouvard et Pécuchet. Hein. À la ville et à la campagne, ces cérémonies unissent les deux vecteurs de débat dans le monde rural, le maire et le curé. Les arbres de la liberté sont bénis par les curés, donc autour de petites cérémonies civiques qui réintroduisent le débat et les symboles républicains dans le pays. Tous les témoins de ces événements, donc Garnier-Pagès, Flaubert, bien sûr, Louis Blanc, évoquent l'unanimité et le renouveau des sociabilités festives autour de ces moments particuliers. Et qu'est-ce qu'on honore à ces plantations d'arbres de la liberté, il y en a eu en 1830, hein, il y en a eu sous la Révolution aussi, la patrie, les citoyens, l'Église sociale, oui, aux Annames, etc., il faut aller aux barbares, la République, bref, les fondements de la démocratie, y compris dans des terres un petit peu effrayées par ces partageux de février, hein, comme dans les villages de Grisy-Suine, de Valence d'Agen, de Castellane, de Mézières-en-Gâtine, d'Irville, de Malonnay, de Bacqueville, enfin, je pourrais continuer longtemps comme ça, hein. Tous ces petits villages célèbrent ce que le maire de Grisy-Suine, donc une petite commune rurale de Seine-et-Marne, appelle une fête nationale et civique. Oui, civique, la plantation d'arbres de la liberté. Alors, la Seconde République a ses vicissitudes, vous les connaissez sur le bout des doigts, hein. Donc j'évoquerai juste la fête de la célébration des votes du 20-21 décembre, dite fête du plébiscite, après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Hein, donc, coup d'État, référendum, enfin plébiscite, hein. Et ensuite commémoration de la victoire du prince-président par une fête nationale, cérémonie du 1er 11 janvier 1852, qui doit être célébrée partout, y compris dans les campagnes, Bray-sur-Seine, Sèvres, Saint-Valery-en-Caux, Bédarieux, etc. Une cérémonie extrêmement célébrée, où l'on honore quoi? Alors d'un côté, on va détruire des symboles républicains, mais on va surtout honorer le fondement de la légitimité du futur Napoléon III, on honore le suffrage universel. Vous savez, l'habileté du futur Napoléon, il rétablit le suffrage universel. Qu'est-ce que c'est que le suffrage universel? Même rétabli par un futur empereur, même instrumentalisé, c'est un des fondements de la démocratie, comme ça sera un des fondements de la République. Par suffrage universel, bien sûr, mesdemoiselles, j'entends au sens du XIXe siècle, donc un suffrage universel masculin, ne faisons pas d'anachronisme. D'accord. Bien, passons directement au Second Empire. Alors le Second Empire, c'est très intéressant. C'est vraiment l'acte de naissance d'une politique festive syncrétique et militante. Le Second Empire, on peut dire, achève l'implantation de la fête politique dans les campagnes, grâce à sa fête nationale, la fête de l'empereur, le 15 août, providentielle date, hein, date de naissance de Napoléon Ier, le 15 août qui annule toutes les autres fêtes civiques qui existaient auparavant. Le 15 août, c'est aussi l'Assomption, donc c'est la garantie d'avoir de bonnes audiences, hein, surtout dans un pays qui est en plein renouveau du culte marial. Et donc, on a une sorte d'union entre le culte marial et la légende impériale, comme dit Ménager. Eh bien, partout, ce 15 août est un immense succès, notamment et y compris dans les campagnes, tout acquises à l'ordre. Comme dit mon ami et collègue Soudir Hazarezin, qui a écrit tout un livre sur le 15 août, hein, c'est le premier essai réussi de fête vraiment populaire et nationale. Hein, le titre de son bouquin, c'est « Quand le 14 juillet se célébrait le 15 août ». D'accord. Et donc, il a étudié ça en détail. Et effectivement, on voit l'émergence à ce 15 août impérial de tas d'idées qui seront reprises par les commémorations républicaines, à commencer par l'idée de nation. Rappelez-vous que la statue de Vercingétorix, les travaux de Napoléon III sur l'origine de la nation, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est un essai de fête nationale vraiment populaire, avec déjà l'apparition de symboles politiques qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Donc, cette cérémonie fondatrice tricolore, les trois couleurs, hein, c'est non seulement, on en reparlera, c'est non seulement la monarchie de Juillet, la République, mais c'est aussi le Second Empire. Hein. Donc cette cérémonie centrale est accompagnée d'autres cérémonies, hein, qui implantent durablement l'idée de progrès, y compris dans les campagnes. Beaucoup de fêtes locales autour des premières associations qui se créent, des associations musicales, sportives, gymniques, orphéoniques, ou alors autour de l'arrivée de l'adduction d'eau dans un petit village. C'est exactement ce que va faire la République plus tard. Donc évidemment, c'est un autocrate, donc il y a aussi des fêtes qui commémorent les victoires militaires. Surtout Nice, la Savoie, les guerres de Crimée, l'Italie, qui honorent une armée tricolore. Et l'armée tricolore, dans l'imaginaire des gens du Second Empire, ça renvoie directement à la Révolution française. Donc évidemment, on honore aussi la personne impériale, hein, mais on honore aussi toujours, en même temps, le suffrage universel qui légitime le César, hein, le césarisme, hein, cette armée qui représente à présent la nation française plus que la France. Un petit mot sur la période de latence, comme ça que je l'appelle, c'est-à-dire avant l'établissement solide de la Révolution française, de la République française, 71, 76, 77, eh bien, on célèbre dans les campagnes. Ah, on célèbre, il n'y a plus vraiment de fête nationale, hein, il y a des fêtes pour l'ouverture des chambres, etc. Donc c'est l'époque où le régime se recherche, hein, vous le savez bien, mais c'est l'époque des banquets républicains dans les campagnes, avant même la proclamation de la République. Et l'exemple le plus célèbre, c'est tous les banquets de Léon Gambetta, hein, surnommé le pigeon voyageur de la République, hein, le fameux banquet en Seine-et-Marne de la Ferté-sous-Jouarre, hein, où il évoque une partie de son programme en 1872. Eh bien, c'est un rituel que l'on trouve dans les villes, mais surtout dans les campagnes, puisque Gambetta, Paul Bert, leur objectif, c'est de conquérir les campagnes, dans lequel les symboliques républicaines sont utilisées avant même que la République ne soit légitimée au plus haut niveau. Donc on en arrive à cette première partie de la République, puisque je m'arrête à 89, appelons-la pour aller plus vite la République opportuniste, hein. Donc il faut se poser la question, est-ce que Marianne triomphe au champ, hein, pour refaire un hommage à Maurice Agulon. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dès 1875, Léon Gambetta dessine l'ébauche d'une politique festive qui devrait permettre de diffuser la sociabilité politique dans les campagnes, hein, et il explique lors d'un de ses banquets, hein, qu'une nation libre, donc une nation libre, ça veut dire pour Gambetta une nation républicaine, hein, ne se conçoit pas sans fête publique. Donc, à partir de 1877, quand les républicains ont tous les pouvoirs de l'État, après la double élection, après l'affaire de MacMahon, hein, eh bien, une des premières décisions de la République, c'est de créer une fête nationale, hein, pour l'exposition universelle de 1878. Donc une fête nationale qui est la répétition du 14 juillet, une fête nationale qui commémore le progrès, mais surtout qui est jumelée avec les centenaires de Voltaire et de Rousseau. Donc c'est dans les rapports préfectoraux, dans les rapports des maires, dans les rapports de police, on parle de fête de Voltaire et de Rousseau. Ben, là, célébrer Voltaire et Rousseau dans toutes les communes de France, c'est bien célébrer deux des inspirateurs, des philosophes des Lumières qui vont fonder la République en France. D'accord ? À partir de là, après, la suite est plus connue. Hein, le 14 juillet, fête de la Bastille, ne me lancez pas pourquoi on a choisi le 14 juillet et pas d'autres dates, c'est un très très long débat. Seule fête nationale régulière de la République avant 1918. Il n'y en a pas d'autres, d'accord ? Eh bien, lui succède la fête Jeanne d'Arc, avant le 11 novembre. Donc, pas de contresens, la fête Jeanne d'Arc, c'est une fête républicaine. C'est pas parce qu'une fille d'eux l'a récupérée au nom d'un parti, je ne citerai pas, que ce n'est pas une fête républicaine. C'est une fête républicaine. Jeanne d'Arc, c'est la sainte de la patrie, dit Michelet. D'accord ? Donc, voilà, c'est une petite parenthèse, un petit peu liée à l'actualité, par exemple. Donc, le 14 juillet réaffirme le rôle didactique des fêtes nouvelles pour un régime, comme disait Rosemonde Sanson, qui voit dans les fêtes, l'expression est belle, un moyen d'éducation populaire, un moyen pour propager les valeurs des Lumières et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à côté de l'école, des associations et de l'armée tricolore. Je vous cite le préfet de l'Eure, région rurale s'il en est, en cette fin du XIXe siècle, hein, « Dans la fête du 14 juillet, les populations comprennent qu'elles célèbrent, avec le gouvernement de la République, le souvenir de ce grand jour où nos pères ont accompli leur émancipation et préparé l'ère des libertés actuelles. » D'accord ? Donc, 1880, c'est le préfet de l'Eure. À côté du 14 juillet, il y a plein d'autres commémorations sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais vous les connaissez, plein de fêtes occasionnelles qui célèbrent quoi, en gros ? C'est une sorte de catéchisme républicain qui doit acculturer les campagnes, donc qui célèbre des grandes dates. Centenaire de 89, centenaire de la Première République, 1792, qui célèbre des grands hommes, hein, hommage à Jules Ferry, hommage à Victor Hugo, pour former une sorte de, la phrase, le mot est d'Amalvi, mais il est très bien choisi, une sorte de catéchisme républicain. Donc, vous voyez, se diffusent par la fête des références historiques, culturelles et politiques pour des Français qui, a priori, doivent tous passer par l'école à partir des années 1880-1882. Ces fêtes nationales sont complétées par des fêtes locales autour d'inaugurations de bâtiments emblématiques. C'est toujours les mêmes. L'école, la mairie, la statue de la République, les sociétés locales, les sociétés patriotiques, etc., etc. Donc, à travers toutes ces commémorations, un corpus se diffuse, et c'est lors de ces commémorations que les populations vont s'emparer de l'événement pour contester, pour discuter, pour faire de la politique. Mais ça, ils l'ont fait dès 1830. Donc, en deuxième partie, je voudrais parler des outils symboliques de la sociabilité festive rurale. Donc, chaque cérémonie apporte son lot d'outils didactiques pour promouvoir les valeurs du pouvoir à un moment donné chez les ruraux. Donc, on utilise des outils rituels facilement compréhensibles, surtout à une époque de faible alphabétisation, à une époque où le message passe le plus souvent par l'image que par l'écrit. Donc, cette période 1830-1889 est assez homogène pour diffuser ces repères rituels originaux qui sont en grande partie encore utilisés de nos jours. Le premier domaine, à partir de 1830, à partir de la monarchie de Juillet, c'est bien sûr les trois couleurs. Le premier outil, pardon, c'est les trois couleurs, et même une partie des emblèmes politiques républicains qui perdurent jusqu'en 89. Donc les trois couleurs, c'est l'antithèse du blanc royal, du lys royal, et ça devient le point de repère des fêtes et des célébrations organisées par l'État, mais aussi par les organisations para-étatiques qui doivent diffuser les valeurs de l'État, comme la garde nationale, sous la monarchie de Juillet, sous la Seconde République, comme l'armée, sous tous les régimes, l'armée tricolore. Et ces trois couleurs, on les retrouve dans les étendards des sociétés musicales qui sont rituellement invitées, des sociétés sportives aussi, qui sont invitées aux cérémonies, surtout à partir de 1848, mais on les voit apparaître dès 1830. Alors évidemment, chaque régime après va essayer de promouvoir son texte fondateur. Donc 1830 va promouvoir, on l'a dit, la charte. C'est quoi la charte? C'est l'idée d'une sorte de constitution, c'est-à-dire de droits et de devoirs de citoyens écrits. Une idée reprise sous la Seconde République, qui fait une fête nationale de la promulgation de la Constitution en novembre 1848. Et on commémore le texte qui grave les droits et les devoirs des gens. Donc, même symbolique, le texte est lu, ou des extraits sont lus dans toutes les communes, et on en débat, mais j'avais relevé le maire de Salles, une petite commune dans le Rhône, qui lit les 116 articles du texte à ses concitoyens. Donc on imagine très bien les habitants, les ruraux de Salles en train d'écouter le maire annoncer tout ça. On imagine que l'audition a dû être assez vite déclinante. Mais quand même, on a l'habitude d'une lecture politique pendant ces commémorations. Donc la parole descend jusqu'au plus petit village, chose qu'on retrouve au moment de la commémoration de la célébration du coup d'État. C'est-à-dire qu'on fait lire la proclamation du prince-président dans toutes les communes de France au moment des victoires militaires. On fait lire des textes officiels et on retrouvera ça, bien sûr, sur la République. Inutile de vous dire qu'on retrouve tout cela sous les banquets républicains pendant la période 75-77, qu'on retrouve ça à l'anniversaire de Voltaire. On demande de lire des extraits de Voltaire, plus Voltaire que Rousseau, d'ailleurs, c'est intéressant, qui sont une sorte de répétition du 14 juillet. Donc on lit beaucoup de textes dans ces années 70-80, qui font référence à quoi? Au suffrage universel. Qui font référence à la souveraineté de la nation. Donc, qui a coutume, les ruraux, à entendre parler de politique. Et je dirais même, à la limite, peu importe la teneur du message. Ce qui compte, c'est qu'on ait l'habitude d'entendre une parole politique sur laquelle on pourra débattre symboliquement pendant les incidents, pendant les fêtes, y compris en créant des incidents. D'accord? Ce qui compte, c'est le vecteur, plus que le fond, parce qu'il va permettre le débat. Donc voilà, on a une sorte de proto-débat idéologique qui descend vers les villages, grâce à ces pratiques de discours, grâce à ces pratiques de débat, que l'on trouve par exemple à chaque plantation d'arbres de la liberté, que ce soit en 1830 et surtout en 1848. Bon, dans le même registre symbolique, la Seconde République réintroduit l'image de Marianne, encore mon Maurice Agulon, au village, donc Marianne date de la Seconde République, lors des fêtes de février, lors des arbres. On a une symbolique civique et républicaine qui se met en place sous la Seconde République avec des fêtes d'inauguration de bustes de Marianne. Or, le buste de Marianne, c'est le grand marqueur républicain dans les campagnes. Donc, ces bustes de Marianne sont généralement complétés de slogans. le slogan de la République actuelle, qui est né en 1848, surtout pas en 1792, 1789, liberté, égalité, fraternité, c'est le moment où on le met sur les églises, Petit-Quevilly, Castellane, Valence d'Agen, sur les mairies, sur certains cafés ponctuellement, et bien sûr sur les écoles, lors des fêtes d'inauguration de bâtiments. Donc on a des concepts civiques qui descendent dans les campagnes par ces événements symboliques, et parmi les concepts civiques importants, il y a le rôle de l'État. Le rôle de l'État dans l'action civique, affirmé par exemple par la présence dès 1830 dans toutes les fêtes, y compris des petits villages, des instituteurs. La monarchie de Juillet, c'est aussi la loi Guizot, 1833. Ça marche avec, vous voyez, un instituteur public dans toutes les communes de France, de plus de 500 habitants. D'accord ? Donc l'instituteur, les enseignants et leurs élèves, on pourrait ajouter l'armée, ou alors ses substituts patriotico-sécuritaires, ça peut être les sapeurs-pompiers, qui incarnent un ordre social et donc politique, des concours de pompe, des activités qui sont couronnées dans les années 1860 par la diffusion des associations, de l'idée associative dans les campagnes, qui triomphent au 15 août notamment. Il faut bien voir que sous le Second Empire, le nombre de fêtes locales d'associations, l'association gymnique, l'Orphéon, la fanfare, etc., triple par rapport à la Seconde République. Donc vous voyez, c'est sous un empire que cet associationnisme s'implante dans les campagnes, ce qui explique le titre de soudire dont je vous parlais tout à l'heure. Donc toutes ces fêtes utilisent ces possibilités associatives impériales. N'oubliez pas qu'il y a un grand mouvement associatif qui se crée dès 1852 en France, autour des sociétés de secours mutuels, autour des sapeurs-pompiers, et on trouve un petit peu partout des sociétés sportives, musicales, à Hérissy, Tannes, Bolbec, Gisors, Sotteville, La Ferté, Montreux, etc. Donc on retrouve des sociétés, au sens large du terme, je mets les pompiers dedans, dans près d'une fête sur deux, sous le Second Empire, notamment à la campagne. Après, évidemment, tout cela va triompher sous la Troisième République, où les sociétés, les associations diverses sont présentes dans plus de deux tiers des fêtes, y compris dans les campagnes, si on prend en compte l'école, avec ses associations, les associations scolaires de tir, etc., et les sapeurs-pompiers. Pourquoi ces sociétés présentes aux fêtes sont importantes ? Parce que dans ces sociétés, on pratique le vote, le débat, on élit un secrétaire, on élit un trésorier, on élit un président, on va à une assemblée générale, bref, on fait de la politique, au sens noble du terme. Bref, on apprend le débat citoyen. Bref, on républicanise des groupes avec des instruments qui sont ceux de la démocratie pour la gestion quotidienne. Donc vous voyez que c'est une sorte de leçon d'application de ce qu'on apprendra à l'école, et qui doit permettre de diffuser cette politisation dans les campagnes. Donc à partir de là, vous comprenez que l'espace festif devient un lieu de rencontre, un lieu de débat, qui développe cette sociabilité rurale dont je vous parlais, un mouvement qui débute incontestablement dans les villes, on est bien d'accord, mais qui s'étend rapidement dans les campagnes proches. C'est dans les villes, mais ensuite dans les chefs-lieux de canton, qu'on a des lieux spécifiques que l'on va retrouver aux fêtes, les kiosques à musique, les sièges de société, les premiers stades, etc. Donc des lieux polysémiques, qui complètent d'autres lieux que l'on trouve dans toutes les communes, les places de la mairie, les mairies elles-mêmes, les cafés, voire même les églises, quand on met le symbole de la République dessus, et on se réunit sur ces endroits. On assiste à des spectacles, on inaugure des bustes, on écoute de la musique, on boit, on danse, mais on discute, y compris de politique. On écoute des airs républicains, on écoute des airs impériaux, et on peut discuter, et on peut faire dégénérer la cérémonie, et en faisant dégénérer la cérémonie pour imposer une idée politique, c'est bien une façon de faire de la politique. Donc évidemment, la symbolique festive républicaine de la Troisième République commençante, la République opportuniste, appelons-la, opportuniste qui n'a pas du tout le sens négatif qu'il peut avoir aujourd'hui. Ils ont l'opportunité de prendre le pouvoir, ils le prennent et ils transforment la France. Donc la symbolique festive républicaine symbolise un peu tous ces outils et les adapte au nouveau cours idéologique du régime. Donc Marianne remplace définitivement l'empereur et le coq c'était sous la monarchie de Juillet, les bustes sont ressortis à chaque journée de fête, le visage de la République apparaît sur les transparents des feux d'artifice, avec la devise de la République. Les lampions sont tricolores et nombreux, vendus sur catalogue, produits en masse. Les rues sont pavoisées, je vous renvoie à Monet. La Marseillaise s'impose définitivement. Elle est jouée par quoi ? Par des orphéons civils, la Patriote, l'Union Lovérienne, la Fraternelle de Louviers. L'armée défile sous les vivats, pensez toujours à la revanche, hein. Et les badauds viennent, comme dit la chanson, voir et complimenter l'armée française. Des cortèges sillonnent les rues des villes ou des villages. Des cortèges qui évitent habilement l'église, bien sûr, et privilégient l'école. Donc vous voyez, la déambulation est une forme de politisation. D'accord ? Les jeux, les sports, les sociétés deviennent des moyens de républicanisation qui marient le physique, le tir, la musique. Et l'école devient, sous la Troisième République, la vedette des cérémonies républicaines, présente dans 65% des fêtes républicaines dans l'heure, sous la Troisième République avant 1914. Donc, à Breteuil, on inaugure une école le 14 juillet 1883. Et qu'est-ce qu'on célèbre ? Un discours des instituteurs qui parle sur les bienfaits de la glorieuse Révolution. Et dans quelques départements, un cinquième des départements maximum, défilent les bataillons scolaires. Pas seulement dans les villes. Dans mon bouquin sur Paul Bert, qui est paru cette année, je parle des bataillons scolaires, et les bataillons scolaires sont une réalité rurale aussi. Dans des toutes petites villes, il y a des bataillons scolaires, notamment en Normandie. Donc, voilà, on voit l'armée qui passe, les petits soldats de la République, comme dit la chanson, sur les bataillons scolaires. Les feux d'artifice deviennent des pigeons voyageurs de l'idée républicaine, les pétards des enfants renvoient aux coups de canon, les curés obéissent aux maires, pour la clé des églises, pour les sonneries de cloches. Les retraites se multiplient la veille du 14 juillet. On sillonne la ville. Les discours sont répercutés par les autorités. Ça peut être des discours de président répercutés par des préfets, ensuite répercutés par des maires. Donc la parole descend et la parole est portée par des autorités civiles, les maires ou les instituteurs. Donc partout, on renoue avec les symboles républicains classiques. Donc je ne vais pas vous faire un long cours sur les autels civiques, les autels de la République, les arcs de triomphe tricolores, les médailles, les bons points patriotiques, les banquets publics, les toasts à la République, à la démocratie, aux droits de l'homme, aux libertés, hein, et les fameux bals populaires où tout le monde se retrouve. L'important, c'est qu'il y ait des lieux de rencontre et d'échange. Et ces lieux de rencontre et d'échange génèrent des incidents qui sont pour moi l'indice de cette politisation des campagnes françaises par la fête publique. Donc, en troisième et dernière partie, on va parler de la contestation festive, qui est ce que j'appelle la politique au village. De 1830 à 1889, le rapport entre les incidents et le nombre de célébrations, vous l'avez sur vos polycopiés, double. Donc, ces incidents aux fêtes sont une constance pendant le demi-siècle qui nous intéresse à peu près. Certes, une constante majoritairement urbaine, pardon, mais qui s'étend aux campagnes, notamment par l'intervenir des chefs-lieux de canton. Donc petit à petit, plus le siècle avance, plus les incidents se diffusent des villes vers les campagnes. Le chef-lieu de canton est une sorte de relais de la contestation urbaine vers les campagnes et apparaît un rituel d'actes séditieux aux fêtes et commémorations publiques extrêmement explicites, extrêmement lisibles pour les gens du XIXe siècle. Cette contestation festive débute sous la monarchie de Juillet, à propos des emblèmes qu'on exhibe aux fêtes et qui causent la grande majorité des incidents ruraux, aux fêtes de Juillet, aux fêtes du roi, quand il faut remplacer le blanc par le tricolore et le lys par la charte ou le coq. Et donc, dans certaines communes, plus monarchistes que d'autres, il y a des protestations. Il y a des gens qui refusent d'illuminer. C'est bien une façon de débattre politiquement. Et ça montre bien l'importance des symboles politiques au XIXe siècle. Donc, j'ai fait le calcul, entre 1830 et 1833, près de la moitié des incidents aux fêtes ont lieu dans des communes rurales. Là où le républicanisme est le moins développé et là où l'idée monarchique traditionnelle, véhiculée entre autres par l'Église, est encore la plus forte. Donc il y a bien une première période d'incidents essentiellement politiques au fait. La Seconde République est plus contrastée, parce que la contestation est à la fois très idéologique, Pensez à tous les débats autour des ateliers nationaux, la République sociale, etc. Et dans ce cas-là, elle est essentiellement urbaine. Paris, Melun, Rouen, Lyon. Mais, dans le Midi, dans le village, dans le Var rouge de Maurice Agulon, hein, vous savez, celui des ouvriers du Liège, etc., qui créent des associations, etc., qui diffusent le socialisme, hein, eh bien, dans les villages rouges du Sud-Est, comme la Garde Fresnay, par exemple, eh bien, on a des gens qui protestent aux plantations d'Arbre de la Liberté parce que l'Église est trop importante, qui protestent parce que le discours n'est pas assez social, parce que la lecture de la Constitution au mois de novembre oublie certains articles, parce qu'on n'évoque pas l'abolition de l'esclavage. Donc vous voyez qu'il y a des choses plus radicales de l'autre côté. D'accord ? Donc vous avez aussi, sous la Seconde République, des membres du clergé, notamment dans ces régions, qui s'opposent à des notables. Donc ils estiment que le clergé traditionnel ne véhicule pas le message évangélique de fraternité, justement, qui était une notion à la fois chrétienne et républicaine à l'époque. Donc vous voyez, vous avez des incidents festifs et politiques assez variés, assez nombreux, hein, mais qui évidemment sont moins importants que les incidents ruraux qu'il va y avoir au moment de la fête du plébiscite en 1852. Là, vous avez un monde rural travaillé par la propagande impériale, hein, qui se livre à des destructions d'emblèmes républicains extrêmement nombreuses, à des farandoles subversives, à des pillages, hein, qui portent un peu la marque d'une sorte de peur de classe exacerbée par le nouveau régime. Hein, et évidemment, là, ces incidents, hein, révèlent cet état de peur sociale qui tétanise les campagnes à partir des lendemains de février et surtout de juin 1848. Donc, vous voyez, incident, mais là, je dirais conservateur dans ces cas-là. Bien, ce mouvement contestataire progresse lentement sous le Second Empire, hein, en grande partie grâce au succès du 15 août, grâce à la contestation urbaine. Mais la nouveauté sous le Second Empire, c'est que les incidents ont lieu à toutes les fêtes nationales. La Saint-Napoléon, et très rapidement à la Saint-Napoléon, qui proteste ? Le clergé, qui estime que Napoléon éclipse l'Assomption. Donc c'est un scandale. Donc incident à la Saint-Napoléon, incident aux fêtes de victoire, incident aux fêtes associatives et locales, hein, aux fêtes d'Orphéon, etc. Donc c'est surtout l'opposition religieuse au 15 août impérial qui est importante, dans les campagnes du Nord, hein, notamment, tandis que dans celles du Sud, on a des protestations de socialistes, comme on les appelait, de rouges, hein, qui ont été soit emprisonnés, soit déportés, hein, qui profitent de ces fêtes pour s'exprimer de manière symbolique, de manière à ne pas tomber sous le coup de la loi. Hein. Donc, évidemment, à partir de ce moment-là, il y a très très peu d'incidents aux fêtes, parce qu'il y a très peu de fêtes, hein, pendant la période pré-républicaine, hein, jusqu'en 1877, hein, d'autant plus qu'on a des campagnes complètement tétanisées, hein, par la mémoire de la Commune, par la légende noire de la Commune qui se diffuse. Hein. Je vous rappelle que la Commune est le premier grand événement où on fait de la propagande par la photographie. D'accord, c'est les photographies retouchées qui sont diffusées par les colporteurs dans les campagnes. Donc on a quelques petits incidents dans les campagnes proches de Paris les plus politisées. Les choses se normalisent en termes d'incidents au fait dans les campagnes sous la République opportuniste. Donc le débat festif, c'est-à-dire les incidents politiques et religieux au fait, se stabilise à un haut niveau, près de 10% sous cette République opportuniste. Hein. Et des protestations très simples qui reprennent tous les usages des régimes précédents. Au village, on refuse d'aller à tout ou partie d'une fête. On porte un vêtement surprenant. On a une attitude pittoresque. On peut faire une farandole protestataire. Des feux de joie à contre-temps. Hein, on peut brûler des mannequins. On peut refuser de sonner des cloches. Hein. On peut évidemment refuser d'illuminer. Hein. Donc on a toute une gamme de symboliques politiques contestataires. Hein. On ne met pas le drapeau aux fenêtres, par exemple, hein. On lit un autre discours que celui qui est prévu, et on chante, et on crie. On chante, on fait des cris séditieux, hein, comme on disait, pour perturber le bon déroulement de la fête. Dans la foule, on fait un cri, hein, et puis après, on s'en va. Mais tout ça est consigné, bien sûr, hein, par le commissaire de police, par le préfet, par le maire, par le préfet, et ça remonte jusqu'au préfet, et ensuite jusqu'au ministère. Donc on a tout un langage extrêmement intéressant. Quelques exemples. À Bello, dans la Brie, petit village, le curé refuse d'aller à la fête de juillet 1833, hein, qui était, selon le maire, la simple prolongation de l'opinion que cet ecclésiastique n'a cessé d'entretenir pendant la glorieuse révolution de juillet. Vous voyez, le curé refuse d'aller à la fête de juillet, donc évidemment, c'est une opposition politique. À Marouët, en Bretagne, pour protester contre la République, les royalistes, dit le maire, soit les trois quarts de la population partirent tous à la lecture du cinquième article de la Constitution, par crainte de voir arriver à la tête du gouvernement un homme qui ne défende ni la propriété, ni la famille. Donc ça, c'était en 1848, bien sûr. À l'opposé, pour la même fête de la Constitution, dans un petit village de Fuju, un ouvrier agricole, radical socialiste, dit le maire, arrache la Constitution des mains du maire en criant « C'est moi qui la lirai, car nous sommes tous électeurs, nous sommes le peuple ». Donc vous voyez, c'est quand même un discours éminemment politique. À la fête de janvier 52 à Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, les socialistes chantent « À bas les aristos, vive la démocratie, vive la sociale, le temps s'approche, vive les démocrates ». À Messy, pour le 15 août 1860, l'abstention du conseil municipal doit être attribuée, dit le maire, au mécontentement devant la libre circulation des grains. Donc vous voyez qu'il y a des... Il y a des choses intéressantes, ça fait référence au traité de libre-échange avec l'Angleterre. Évidemment, sous la République militante, on a systématiquement des contestations dans les campagnes. Pourquoi ? Parce que la fête républicaine, notamment le 14 juillet, est un étendard politique pour le camp républicain. Donc je vais vous lire un petit extrait de ce livre que vous connaissez tous. Donc c'est l'enquête de Jacques et Mona Ozouf sur les maîtres d'école sous la Troisième République. Écoutez ce que dit un instituteur, ou une institutrice plutôt, vendéenne. Notre journaliste de gauche ne répondait pas aux défilés religieux, aux processions. Car les républicains avaient leur revanche le jour du 14 juillet. Là, c'est 1904, ils étaient les maîtres de la rue. Ils organisaient cette fête avec leurs propres moyens et leur propre matériel. La municipalité conservatrice ne reconnaissait pas cette fête. La droite la boudait, les écoles libres faisaient la classe. La gauche avait fondé une société des fêtes qui n'organisait d'ailleurs que celle-là. Les ressources provenaient d'une souscription qui était payée avec la régularité d'un impôt. Les moins sectaires des commerçants de droite versaient aussi, et presque tous les cafés, il y en avait 32 dans son petit village, d'accord, qui étaient appelés à profiter de la grande affluence d'un jour d'été. Les instituteurs, avec les grands élèves, préparaient la fête qui commençait à la sortie de la classe le 13. La musique avait un kiosque démontable, la société un mat de cocagne, etc., etc. Les écoliers plaçaient la veille lanternes et bougies. Dès le matin du 14, des ouvriers venaient monter le kiosque et le mat de cocagne tricolore. Donc, vous voyez bien, la fête est un étendard républicain. Enfin, le 14 juillet était dignement marqué à Paix, donc dans la Vendée, en 1886, sous l'égide de l'école laïque et de tous ses partisans, dans un quartier rouge. Donc voilà ce qu'est le 14 juillet. Donc vous comprenez bien qu'à chaque 14 juillet, évidemment, tout le monde s'empare de la fête, soit pour soutenir la République, soit pour la contester. Chapelle-la-Reine, petit village chez les Marnais, 14 juillet 1880, les élus républicains protestent. Vous avez toujours combattu la République. C'est pour cela qu'il n'y a pas de fête nationale dans notre commune. Provins, 1887, donc c'est une ville, je suis bien d'accord, décrit « Vive Boulanger !» résonne le 14 juillet 1887. Moret-sur-Loing, 14 juillet 89, 14 juillet du centenaire, le maire écrit « Le curé refuse de célébrer ce qu'il appelle la violence et la chute du droit divin ». Donc, on a bien l'impression que la fête républicaine est un vecteur, comme dirait Peter McPhee, qui a écrit « Les semailles de la République », que vous connaissez tous si vous préparez le concours, c'est un vecteur de politisation par le bas de la France, qui rejoint la politisation par le haut, imposée par le corpus de commémoration, l'école, les associations et l'armée tricolore. Je terminerai en disant que ces incidents festifs permettent à l'ensemble de la gamme politique de s'exprimer pendant toute la période. Le socialisme, sous la Seconde République et l'Empire dans le Sud-Est, le légitimisme dans l'Ouest, sous l'Empire ou la monarchie juive, le républicanisme dans la région parisienne, pendant la période pré-républicaine, pendant le Second Empire, le libéralisme en Normandie, dans le Sud-Ouest, le cléricalisme, beaucoup sous l'Empire, dans l'Ouest, dans l'Est, sous les opportunistes. Donc l'anticléricalisme, on entend des cris à Vesoul, en juillet 80, à bas les calotins, le laïcisme, sous la monarchie juive, le Second Empire, la République opportuniste. Donc tous ces conflits mettent souvent aux prises le maire et le curé, et illustrent une sorte de résistance cléricale à la sécularisation d'inspiration urbaine. Et elles montrent aussi que les idéologies sociales et laïques perdurent, s'infiltrent, si je puis dire, dans les campagnes, selon les périodes, selon la géographie nationale. Mais on comprend bien que la contestation festive renvoie à toute une gamme de rituels sociaux, porteurs de valeurs républicaines. Donc, vous voyez bien que dès le début du XIXe siècle, par la fête, par la sociabilité festive, les campagnes françaises se politisent, qu'on retrouve toutes les thématiques du siècle, qu'on crée de nouveaux lieux de rencontre qui vont servir, on va dire, jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale, que les incidents ruraux sont polysémiques, qu'ils jouent sur toute la gamme idéologique, et que la République, à partir du 14 juillet, n'a eu qu'à théoriser et à standardiser ces contestations pour faire de la fête publique un moyen de politisation des campagnes extrêmement empirique, un moyen diffusé grâce aux lois libérales de la République, loi de 1884, plus tard loi sur les associations, mais un moyen qui reste encore largement à étudier dans les campagnes. Il faudrait faire des enquêtes locales extrêmement fines, au plus bas, c'est-à-dire en partant des archives locales, pour voir la réalité de ces incidents et pour pouvoir faire ensuite une cartographie un peu plus fine qui permette de comprendre les vecteurs de politisation de la France rurale au XIXe siècle. Je vous remercie. Ah, c'est bien.